Chapitre 38. Le Grax n'avait pas encore entamé son exploration des greniers. Il se disait sans doute que le conflit déclaré entre les trois autres membres du Feu de Dieu et lui redonnait un peu d'intérêt à la vie monotone d'après le cataclysme. Il préparait le combat en montrant à ses adversaires qu'il savait pertinemment où il se tairait, en leur adressant régulièrement des petits signes, arcs de cercle dessinés avec le pouce sur le cou, mouvements de bassin obscènes, lames de couteau pointées vers le plafond, sourires, grimaces et rictus variés. La guerre psychologique qu'il leur livrait commençait à porter ses fruits. Elle avait contraint Alice et les enfants à s'organiser, à dormir à tour de rôle pour exercer une surveillance constante sur la grande pièce et les autres parties de la maison. Elle avait même interrompu leurs expéditions régulières à la cuisine et à la cave. Ils se demandaient maintenant si le Grax dormait vraiment ou feignait seulement le sommeil et n'osait plus descendre. La dernière fois que Théo s'y était essayé, il avait failli être surpris par le parasite. Il l'avait semé à l'issue d'une course-poursuite éprouvante dans l'aile des appartements, puis, revenant rapidement sur ses pas, il avait poussé le verrou de la porte de séparation derrière lui, et pendant que le Grax essayait de l'ouvrir à coups d'épaule, il était remonté dans le grenier. Les vivres et l'eau qu'il avait rapportés seraient bientôt épuisés. Il avait pris des risques inconsidérés pour s'enfermer dans les toilettes de la salle de bain. Il détestait faire ses besoins dans le grenier. Il fallait sans cesse vider la bassine par une brèche de la toiture, puis remettre les tuiles et les voliges en s'appliquant à ne laisser aucune prise au vent. Le toit était sans doute jonché de leur déjection. Et cette idée, autant que le manque de confort et la sensation d'humiliation, il avait l'impression d'être revenu plusieurs années en arrière, un petit garçon à qui on essayait d'apprendre à faire sur le pot, le révulsait. Il n'avait pas le choix, comme disait sa mère. Les piles aussi fatiguaient, et le Grax, plutôt malin pour un Cro-Magnon cinglé, le surnom que lui avait donné Zoé, avait planqué les piles de rechange dans un tiroir dont il portait la clé autour du cou. Le temps travaillait pour lui. Il ne pourrait éternellement rester dans les combles. Il leur faudrait tôt ou tard changer de vêtements, prendre une douche, se soigner ou se réchauffer. La température ne cessant de baisser depuis quelques jours. Le temps jouait pour lui, et il se délectait de la situation, quand il n'était pas emporté par l'une de ces crises de démence qui l'entraînait dans d'interminables soliloques, à l'issue desquels il lui arrivait parfois de s'endormir sur le carrelage, comme foudroyé.
« J'espère qu'il se relèvera pas !»
souffla Zoé.
« Ça m'étonnerait !»
murmura Alice. « Déjà que la Morora n'a pas suffi à le tuer. » Elle se mordit la lèvre inférieure. Zoé bondit sur l'occasion.
« C'était de la Morora !»
« Des graines empoisonnées que j'ai retrouvées dans la cave. »«
Bien essayé !»
« J'ai pris des risques. Il a deviné que le ragoût n'avait pas un goût normal. » Imagine qu'il m'ait obligé, ou l'un de vous deux, à le manger.
Des risques, on est bien obligé d'en prendre. J'en ai marre, moi, de vivre dans ce grenier. Il sait où on est de toute façon. Il est vraiment devenu fou. J'ai l'impression de vivre au-dessus de l'antre d'un monstre. Va falloir qu'on l'affronte tôt ou tard, le monstre.
Théo gardait toujours une partie de ses pourtant maigres repas pour les fouines. Les grignotements et les couinements des captives horripilaient Zoé.
Ou c'est moi qui deviendrai folle,
ajouta l'adolescente. Frank s'examina le portail, engoncé dans une épaisse couche de glace. Il aurait fallu dégeler tout autour avec un chalumeau pour le faire coulisser sur son rail. Le feu de Dieu paraissait infranchissable, indestructible. Il avait parfaitement rempli son rôle dissuasif. Exténué, affamé, Frank ne ressentait aucune émotion. Les chiens s'étaient couchés dans la neige. Les amples et rapides palpitations de leurs flancs traduisaient leur profond épuisement. Souria, elle, observait la construction, comme si elle cherchait une faille. Frank avait parfois l'impression qu'elle allait s'envoler au premier souffle de vent. Il y avait également la voix des sous-sols, de la cave, par les soupiraux. Peut-être le gel avait-il éclaté le ciment qui scellait les barreaux. Il prit la fillette par la main et fit le tour de la bâtisse. La glace submergeait presque entièrement le premier soupirail. Le deuxième, en revanche, était partiellement dégagé, malgré le tumulus de glace dressé juste devant. À la lueur de la lampe, il vit que le ciment était fendillé en surface, empoigna l'un des barreaux et le secoua aussi énergiquement que possible. La tige métallique ne bougea pas d'un millimètre. Il resta un petit moment devant l'ouverture, en espérant qu'Alice, Zoé ou Théo s'introduiraient dans la cave et apercevraient le rayon lumineux. Personne ne se manifesta. Il examina le troisième soupirail, aussi solide que l'autre. Impossible de passer par le bas. Il lui sembla entrevoir un mouvement dans la pénombre. Un visage clair et furtif sur le fond d'obscurité. Il crut avoir rêvé ou avoir été le jouet d'une illusion. Un chien gronda sourdement derrière lui. Il ne devait compter que sur lui-même pour s'introduire dans le feu de Dieu. Il ne restait qu'une solution. Passer par-dessus le portail en confiant Souria aux trois chiens. Avec un peu de chance, les saillies, les tessons de bouteilles et les lames dont les hommes de l'arche avaient criblé les murs et l'immense panneau métallique seraient recouverts de glace et auraient perdu leur caractère blessant. Il douta d'avoir la force d'escalader plus de 10 mètres de paroi verticale. Il revint devant le portail, suivi de Souria et des trois chiens, s'accroupit et prit la fillette par les épaules. « Il va falloir que j'essaie de passer par-dessus, d'accord ? Je pourrai pas te porter. Tu m'attendras de ce côté, avec les chiens. Ils te protégeront. Je laisse également le fusil. Je t'abandonne pas, d'accord ? Je t'abandonnerai jamais. » La tristesse infinie dans le sourire de Souria le bouleversa. Sa fragilité également. Il se rappela sa mère, allongée dans le wagon renversé du train de banlieue, ce pacte solennel qui les avait reliés. Elle lui avait transmis une partie de la force extraordinaire qu'elle avait déployée pour maintenir sa fille en vie et la confier à un inconnu. Sans elle, sans son sacrifice, sans le ressort qu'elle avait tendu en lui, il n'aurait jamais eu la force de parcourir les 500 kilomètres entre Paris et le feu de Dieu. Il garda un long moment la fillette blottie contre lui, envahie d'une nostalgie douce et déchirante, d'un sentiment de perte irréparable. Il se détacha d'elle avec des regrets infinis. « Je reviens le plus vite possible. Ne bouge pas d'ici, d'accord ?» Refoulant la tentation lancinante de retourner près de Souria, il entama l'escalade du mur qui soutenait le portail. La glace et les cendres mêlées ayant escamoté toutes les prises, il utilisa les couteaux qu'il planta à tour de rôle dans l'épaisse couche dure et se hissa centimètre par centimètre le long de la surface verticale. Il progressait avec une lenteur désespérante, craignant à chaque instant que la glace ne s'effrite sous son poids, jetant de réguliers coups d'œil en contrebas pour s'assurer que Souria tenait le coup. Il faillit abandonner et revenir sur ses pas lorsqu'il se rendit compte qu'elle s'était allongée dans la neige. Immédiatement, les chiens s'installèrent autour d'elle, de manière à la maintenir dans une bulle de chaleur. Il ne pourrait rien faire de plus. Il continua son escalade. Le mur, ce mur qu'il avait lui-même bâti et consolidé avec les autres hommes de l'arche, lui parut incroyablement haut. Son épuisement rendait ses gestes fébriles, mal assurés. Le vent s'acharnait sur lui comme pour le précipiter au sol. Le froid se faufilait sous ses vêtements et l'enveloppait d'un filet aux mailles tranchantes. Les flocons qui tombaient sur ses lunettes s'incrustaient sur la matière transparente et perturbaient une vue déjà amoindrie par l'obscurité. Il ne distinguait plus grand-chose, ni en dessous, ni au-dessus de lui. Souria et les chiens n'étaient plus que de vagues formes, estompées par les rideaux blancs. « On dirait qu'ils guettent !» dit Zoé. Le Grax s'était planté devant la baie vitrée, avec dans une main son trident et dans l'autre la hache. « Tu crois qu'il a vu quelque chose ?» demanda Alice. Il a cru voir, en tout cas. Je me demande s'il n'est pas allé faire un tour à la cave. Le Grax n'avait pas renouvelé les bougies presque entièrement consumées. Bientôt, on ne distinguerait plus que les lueurs rougeoyantes des poêles et la grisaille diffuse de la cour par la baie vitrée. Où est passé Théo ? Alice alluma la lampe et balaya le grenier jusqu'au recoin où son fils avait installé la cage des fouines. Elle dormait paisiblement, roulée en boule. Théo ne s'y trouvait pas. Pas plus qu'il n'était dans les autres endroits où il avait l'habitude de se tenir. « T'inquiète pas pour lui, maman, il doit bouder dans un coin. » Théo ne parlait presque plus ces derniers temps. Était-ce un effet de sa maigreur prononcée, ses yeux paraissaient profondément renfoncés sous ses arcades saillantes, et fiévreux, sans cesse en mouvement. Des yeux de moineau. Zoé le harcelait sans cesse pour qu'il lui raconte les secrets inavouables qu'il avait surpris dans l'arche. Il refusait de répondre, et Alice comprenait qu'il n'avait pas envie de ressusciter par la parole les innombrables trahisons qui avaient marqué son enfance. « Il devient de plus en plus nerveux !» chuchota Zoé. Alice glissa à son tour son œil dans la fente du plafond. Le Grax faisait les 100 pas devant la baie vitrée, marmonnant d'incompréhensibles syllabes. « Hé, on dirait qu'il y a quelqu'un dans la cour !» Zoé se serra près de sa mère pour partager avec elle la mince fissure. Elle aperçut un mouvement de l'autre côté de la baie vitrée. Une ombre. Le Grax l'avait vu, lui aussi. Il s'était reculé dans la pénombre en levant son trident.
« Il avait raison, ce dingue !» murmura Zoé. « Il y a encore des rôdeurs dehors !»
Alice se concentra sur la silhouette qui approchait de la baie vitrée. L'obscurité, les flocons de neige, l'étroitesse de son champ visuel, la proximité de Zoé ne facilitaient pas la tâche. Elle ne distinguait qu'une forme sombre, sans doute enveloppée, comme les assaillants précédents, dans des tissus superposés. Son cœur battait à tout rompre. Ce n'était pas la peur, mais un autre sentiment, indéfinissable. Quelque chose comme un soudain et incompréhensible espoir. Franks essaya d'ouvrir la baie vitrée. Elle était fermée de l'intérieur. Il se rendit près de la porte blindée de la buanderie, également bouclée. Il revint devant la baie et tambourina à plusieurs reprises. Personne ne se manifesta. Il y avait pourtant du monde dans le feu de Dieu, puisque des bougies achevaient de se consumer à l'intérieur et que les poêles jetaient des lueurs rougeoyantes dans la pénombre. Le franchissement du mur d'enceinte l'avait vidé de ses dernières forces. Il avait failli s'évanouir lorsqu'il avait posé le pied dans la cour. Les gémissements des chiens, aigus, prolongés, s'élevaient comme des complaintes funèbres de l'autre côté du mur. Il se reprocha d'avoir abandonné Souria. Il avait l'impression qu'il ne la reverrait plus. Il donna une autre série de coups désordonnés sur le verre de la baie. Il voulut hurler. Il n'en eut pas la force. L'espace de quelques instants, il crut qu'il allait échouer si près du but, après avoir parcouru les 500 kilomètres entre Paris et le Périgord noir. Il avait imaginé différents scénarios pour son retour, plus ou moins réussi, plus ou moins joyeux, mais rien d'aussi sinistre, d'aussi absurde. Où étaient donc passés les habitants du feu de Dieu? Il lui sembla entrevoir un mouvement dans la grande pièce. Il reprit espoir. Quelqu'un s'approcha de la baie et commença à l'ouvrir. Les éclats de neige et de glace incrustés sur ses lunettes l'empêchèrent de distinguer l'homme ou la femme qui s'agitait de l'autre côté du verre. Il s'engouffra par l'ouverture dès qu'elle fut suffisamment large. « C'est moi, » dit-il. « Je suis de... » Il reçut un coup violent sur le crâne qui lui ploya les genoux. Tomba de tout son long sur le carrelage. Perçu, avant de perdre connaissance, le contraste entre la froidure extérieure et la chaleur bienfaisante de la grande pièce.
« On dirait... Théo !»
s'exclama Zoé. Le Grax avait ouvert la porte au rôdeur et l'avait assommé d'un violent coup de trident sur la tête. Il s'apprêtait à l'achever quand un hurlement avait retenti, suspendant son geste. C'était bien Théo qui s'avançait dans la grande pièce, la tête dissimulée par son passe-montagne, son arc bandé, la flèche pointée sur le Grax.
« Tu crois sans doute me faire peur avec ton jouet, petit con ?»
cracha le Grax avec un rictus.
« Pourquoi intervient-il ? »
gémit Alice.
« Il a perdu la tête !»
Les fouines s'excitaient de nouveau dans leur cage. Leurs cris aigus et les crissements de leurs griffes sur les barreaux métalliques emplissaient tout le grenier.
« Je te préviens !»
La voix de Théo était étrangement ferme, presque méconnaissable.
« Laisse-le tranquille, ou je te tue !»« Qu'est-ce qui te prend, petit con ? C'est rien qu'un paumé qui essaie de nous piquer notre bouffe !»« Laisse-le tranquille, je te dis !»
Pendant quelques secondes, le Grax et Théo, séparés par une distance de 5 mètres, se défièrent du regard. L'intrus remua sur le sol en poussant un gémissement sourd.
« Je vais maintenant achever ce que j'ai commencé et tu vas gentiment retourner dans ton grenier avec ta sœur et ta mère. Bientôt, je m'occuperai de vous trois. Et toi, le branleur, je te ferai regretter de m'avoir frappé. »
Le Grax s'approcha de l'homme à terre et de nouveau brandit son trident pour lui enfoncer les pointes métalliques dans le cou ou la poitrine.
« Arrête !»
Le Grax ne tint pas compte du cri de Théo et leva encore son trident. La flèche se ficha avec un bruit mat en plein milieu de sa poitrine. Il resta un moment les mains en l'air, puis il esquissa un pas de recul et laissa tomber ses bras le long de son corps, lâchant la fourche. Théo avait déjà encoché une deuxième flèche. Il la tira lorsque le Grax, perdant l'équilibre, s'avança d'un pas dans sa direction. Elle se planta cette fois dans sa gorge, qu'elle traversa de part en part. Le Grax le fixa avec un mélange de stupeur et de soulagement. Il tenta de parler, d'incompréhensibles sons sortirent de sa bouche, enveloppés dans des bulles de sang. Il fit encore quelques pas titubants, avant de tomber à genoux et de tendre les bras vers Théo. Il n'y avait aucune agressivité, aucun ressentiment dans ses gestes. De la reconnaissance, au contraire. Comme s'il remerciait son bourreau de le délivrer de la vie. Il bascula sur le côté et rendit son dernier souffle, recroquevillé à la façon d'un fœtus. La tête contre les genoux. Théo s'approcha de lui pour s'assurer qu'il était mort, puis il reposa son arc sur le sol, se pencha sur l'intrus qui continuait de gémir sur le carrelage, et dit « Papa. » Franks. C'était bien lui. D'une maigreur effrayante, joue creuse couverte d'une barbe emmêlée et parsemée de fils blancs. Le coup du Grax lui avait ouvert le cuir chevelu, Alice et Zoé étaient descendues du grenier par l'échelle laissée par Théo et s'étaient précipitées sur lui pour le dévêtir, le réchauffer, le laver et le soigner. Il alternait les pertes de connaissance et les brefs retours à la conscience, tenant des propos fiévreux, incohérents, sur une petite fille et trois chiens restés à l'extérieur du feu de Dieu.
« Comment t'as su que c'était lui ?»
demanda Zoé à son frère. Il haussa les épaules.
« Je l'ai su, c'est tout. Pourquoi tu nous as rien dit ?»«
Vous me prenez toujours pour un bébé. Vous m'auriez empêché d'affronter le Grax. Je dois maintenant aller chercher la petite fille et les chiens restés dehors. »«
Comment tu comptes t'y prendre ?»
« Je vais essayer d'ouvrir le portail. » Théo sortit dans la cour après s'être muni d'un chalumeau et commença à dégager le rail du portail de sa gangue de glace. Il lui fallut environ une heure pour dégager le cadenas et 2 heures supplémentaires pour faire coulisser l'immense panneau métallique d'une 50 cm. Après avoir couché Franks dans son lit, Alice le rejoignit dehors avec une lampe tempête. Le blizzard balayait rageusement le caus. Ils découvrirent les trois chiens, allongés sous une couche de neige déjà épaisse. Puis, tout près d'eux, le corps inerte d'une petite fille, dont le visage détendu et pâle leur donna à penser qu'elle était morte.